L'heure de pointe, David Torchala.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'heure de pointe, ce temps société sur Radio Présence que j'aime animer avec vous, Delphine Pereira. Bonjour Delphine.
Bonjour David, bonjour à tous.
Vous êtes journaliste pour le groupe La Dépêche du Midi, La Nouvelle République. À côté de vous, j'aime aussi animer avec vous, Anne Deloye. Bonjour Anne.
Merci David, bonjour David, bonjour à tous.
Merci.
C'est toujours un grand plaisir d'être ici au micro de l'heure de pointe.
Mais c'est vrai que vous êtes souvent d'ailleurs au micro de Radio Présence. On vous entend, on a la joie d'entendre vos chroniques, notamment sur la solidarité à l'antenne. Alors vous savez, aujourd'hui nous allons nous intéresser à un sujet essentiel hein, qui touche de plus en plus de familles, le vieillissement, l'autonomie et les nouvelles façons de vivre le grand âge. Un nouveau lieu vient d'ouvrir ses portes à Lourdes, en plein cœur de ville, avenue de la gare, vue magnifique, c'est la résidence senior Stella Les Roses de Massabielle. Cette résidence s'adresse à des seniors autonomes qui souhaitent vivre chez eux, dans leur propre appartement, tout en bénéficiant de services, de sécurité, de convivialité, d'animation. Il y a plein de choses à l'intérieur de cette immense maison. Pour en parler, nous sommes avec Charles Langlois. Bonjour.
Bonjour David, merci de me recevoir.
Mais avec grande joie, vous êtes le directeur régional commercial du sud-ouest du réseau Stella. À côté de vous, il y a Ludovic Pen. Bonjour Ludovic.
Bonjour David, bonjour à tous.
Vous êtes, vous, directeur régional d'exploitation sud-ouest du réseau Stella. Bah oui, c'est un réseau de professionnels qui sont au chevet de nos aînés et qui viennent d'ouvrir cette grande résidence à Lourdes. Vous avez déjà vu la résidence, Delphine Pereira?
Tout à fait, du début à la fin.
Et oui, parce qu'il y a eu un long temps de chantier. Oui. Donc vous allez pouvoir nous raconter ça. Mais d'abord, peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer la genèse, la naissance, peut-être vous, Charles Langlois, de cette résidence Rose de Massabielle?
Mais écoutez, ça part d'un projet, d'un besoin sur le territoire. On a ciblé cette ville afin de monter ici la résidence. Donc, grande résidence qui totalise 89 logements. Voilà, donc qui a vu le jour il y a quelques mois maintenant. Donc la construction s'est terminée il y a quelques semaines. On a réceptionné les clés. Donc on est en train de préparer l'ouverture assez sereinement, donc avec mon collègue et avec toutes les équipes sur place. Voilà.
C'est vrai qu'il y a peut-être juste un point de géographie pour ceux qui connaissent Lourdes. Eh bien, il y a la gare de Lourdes. C'est vrai qu'une fois qu'on descend
juste
du train, on a cette ouverture magnifique sur le panorama pyrénéen et de la vallée des Gaves. Et en lieu et place de cet ancien café de la gare, une institution lourdaise, eh bien voilà, est née cette grande résidence. Ludovic Pen, si vous pouvez nous décrire, Charles Langlois nous a dit 89 chambres, mais c'est quand même un ensemble assez massif.
Oui, alors... pas des chambres, c'est des appartements.
Des appartements.
Du T1 au T3.
Ouh, je crois que là, j'ai commis une première erreur. Chambre et appartement, on va en parler.
Parce qu'effectivement, c'est des appartements autonomes hein, où les résidents peuvent vivre de façon autonome. Donc du T1 au T3, une salle de restauration, un salon pour les activités, un salon de coiffure, pas mal d'espaces communs pour les résidents à venir.
Et justement, dans ces espaces communs, il y a une salle à manger.
Oui.
Et est-ce que c'est ouvert aux personnes de l'extérieur qui ne sont pas résidentes, mais qui se sentent seules pour déjeuner à midi et
oui,
qui
tout
voudraient
à fait.
Venir?
On le voit sur d'autres résidences, des personnes qui viennent manger le midi avec nos résidents. Parfois des personnes âgées qui n'ont plus envie de se faire à manger tous les jours, qui veulent des repas équilibrés. Bon, mais viennent manger chez nous le midi. Parfois restent pour les activités. Mais ça peut être aussi les familles qui peuvent manger avec
oui,
les résidents.
En fait, c'est un lieu ouvert.
Oui, c'est ouvert.
C'est un lieu ouvert où c'est comme un immeuble où habiteraient des gens. Et,
tout à fait.
Les gens peuvent venir les visiter, manger avec eux, faire des activités, sortir. Ce n'est pas un cadre comme une maison de retraite.
Non,
ce
n'est pas clos.
C'est vraiment très ouvert.
Anne Deloye.
Oui, alors si on dit résidence avec des appartements, ce sont tous des appartements à louer. Les résidents ne deviennent pas propriétaires Et donc, si on peut venir en couple ou c'est simplement pour des personnes seules? Parce que vous parlez de T3, est-ce qu'il y a suffisamment de place pour un couple
bien,
quand on commence
bien
à
sûr, vivre? Bien sûr, les appartements donc, sont conçus pour des personnes seules ou en couple, selon la typologie du logement. On a des personnes en couple qui sont dans des T2 aussi, à savoir aussi qu'on accepte les animaux. Ça faisait partie d'une question aussi qui m'avait été posée par, par Delphine lors de la venue. Ouais. Donc, c'est vraiment un lieu de vie pour des personnes seules ou en couple. Et le temps ne s'arrête pas lorsqu'on rentre en résidence service senior. Voilà.
Donc, les animaux domestiques, chats, chiens, sont acceptés.
Tout à fait, tout à fait.
Et il y a un endroit spécifique, des fois, pour qu'ils puissent aller faire leurs besoins? Comment ça se passe dans le périmètre de la résidence?
Alors, dans le jardin extérieur, effectivement, il y aura un coin pour les animaux. Mais après, les résidents sortent souvent avec aussi pour aller se promener. Ils ne restent pas forcément dans le parc de la résidence.
Vous m'avez repris que tout à l'heure, j'ai dit le nombre de chambres et d'appartements. C'est vrai que je crois que c'est même très, très important de m'avoir repris sur ce point-là. Parce que je crois qu'au cœur du projet demeure l'autonomie des personnes. Qu'est-ce que ça signifie d'être, de vieillir en autonomie au sein de résidences comme celle de Stella?
Ben, c'est que les résidents peuvent garder la possibilité de rester autonomes encore, de se faire à manger s'ils le souhaitent, de sortir, de rentrer quand ils veulent, de recevoir du monde, de continuer les activités comme ils les auraient à la maison finalement.
Et alors pourquoi partir de la maison pour rejoindre une résidence? Alors je pense, j'imagine que les résidences sont multiples, et personnelles, etc. Mais qu'est-ce qu'on y trouve et,
Il y a beaucoup de raisons. Là, la sécurité, c'est déjà une des premières raisons.
C'est-à-dire ?
Des gens qui sont isolés, par exemple, à la campagne, qui souhaitent nous rejoindre pour avoir du lien social, mais aussi une sécurité avec une présence 24 heures sur 24.
C'est-à-dire qu'il y a une assistance à l'intérieur des chambres. Comment ça se passe,
en fait,
cette sécurité?
Si
comment elle s'organise?
Qu'est-ce qu'il y a de plus qu'un logement classique, entre guillemets, comme vous l'avez dit, c'est pour plusieurs raisons qui sont propres, en fait. Ça peut être de la sécurité, un lien social, un besoin quelconque aussi de profiter aussi des animations et tout ce qu'on met au quotidien. Qu'est-ce qu'il y a de plus en termes de sécurité? C'est on a un système de téléassistance dans chaque appartement qui est propre à chaque résident ou résident, avec un bracelet ou un collier. Qui est détecteur de chute, perte de verticalité, donc qui appelle dans un premier temps les personnels qui est sur place, comme on assure une présence 24-24, 7 jours sur 7, et un contre-appel avec une plateforme de téléassistance. Donc la personne seule dans son appartement qui chute, on est informé, on peut lui porter secours, on peut être là pour elle et éviter que lorsqu'on est à domicile et qu'on est seul et qu'on chute, ça peut s'aggraver, il peut y avoir des grandes difficultés. Donc, ce système de téléassistance-là, aujourd'hui, nous permet de maintenir en sécurité nos résidentes et résidents.
Quand vous parlez de personnes qui sont des salariés qui sont permanents 24 heures sur 24, comment est composée cette équipe qui sont-ils? Ça, c'est pour vous, Ludovic Père.
Donc, les équipes, aujourd'hui, ce sont des employés polyvalents. Qui peuvent être amenés à faire des ménages pour les appartements, de la blanchisserie, du service au restaurant, mais aussi un petit peu d'animation pour être auprès des résidents. Et on a des équipes qui sont là la nuit, effectivement, à l'astreinte, s'il y a besoin. Ensuite, il y a le directeur et l'assistante de direction. Voilà. Et toute l'équipe aujourd'hui qui est arrivée cette semaine sont tous des lourdes, des gens de Lourdes.
Ça a généré combien d'emplois, justement?
Pour l'instant, on a 6 personnes pour commencer l'activité. Avec la montée en charge après de l'établissement, on reprendra des personnes en plus. Donc aujourd'hui, on a 6 personnes.
Et au niveau des appartements, à l'intérieur, ce sont des logements qui sont meublés où les gens peuvent les arranger à leur goût, selon ce qu'ils souhaitent.
Ils sont meublés, effectivement, mais les résidents ont la possibilité de nous faire retirer des meubles pour mettre les leurs à la place, en totalité ou partiellement. Ça, c'est
important quand même, les meubles, quand finalement on déménage, on a envie de retrouver un petit peu la maison.
De se sentir chez soi.
Mais c'est ça, c'est ce qui
la
facilite.
La déco, c'est pour eux, la meublée, la décoration, les choses comme ça.
Comment, Alors, on le comprend, hein, c'est une résidence qui vient d'ouvrir, qui est naissante, il y a de la place libre, on imagine encore, dans la résidence. Comment on arrive finalement à... C'est du cas par cas, en fait, chaque accueil. Comment on arrive à composer en fonction des personnes?
C'est du cas par cas, bien sûr, parce que chaque projet de vie est différent. Et c'est notre travail, nous, au quotidien, de nous adapter en fonction de la demande. Donc ça peut être une personne qui a besoin d'avoir un appartement vide lorsqu'elle arrive, parce qu'elle a cette volonté d'amener la totalité de ses meubles, et au contraire, une personne qui n'a pas forcément d'attache avec ses propres meubles et qui souhaite avoir un appartement meublé directement pour pas avoir à s'embêter pour le déménagement, etc. Donc en fait, ce qu'on propose, c'est une flexibilité dans notre offre. Avec une personne qui souhaite garder seulement une chaise, ben, on lui laisse la chaise si elle le souhaite, ou une personne qui a l'appartement meublé, et il n'y a aucune incidence sur le prix de ce côté-là aussi.
Et au niveau des services, vous avez aussi cette flexibilité de, par exemple, vous parliez tout à l'heure du ménage dans les chambres ou pas.
Oui, c'est ça.
Chacun peut se le faire soi-même ou demander à ce que ce soit fait.
C'est un panel de services. Alors, on a un loyer, enfin une redevance de base qui est un tronc commun pour l'ensemble de nos résidentes et résidents. Et après, on a des services à la carte. En fait, ça va être du ménage, de la restauration, ça va être la blanchisserie et toutes ces choses-là qui ne sont pas obligatoires. C'est seulement quand il y a un besoin, quand il y a une volonté de la part de la personne qui souhaite avoir un passage pour le ménage, un passage pour l'entretien de son linge. Et c'est vraiment des choses qu'on propose et qu'on n'impose pas. Voilà.
Ça veut dire que dans l'appartement tel qu'il est proposé, il y a une cuisine avec le matériel qu'il faut.
C'est ça.
Il y a une machine à laver le linge.
C'est ça.
Tout ça, c'est compris. Alors, l'offre de base.
Si je dois simplement résumer ce qui est compris dans la partie notamment cuisine, on met à disposition une plaque vitrocéramique, la hotte, le petit frigo, un micro-ondes. Et après, on a l'emplacement pour la machine à laver, parce qu'il y a des personnes qui préfèrent utiliser cet emplacement-là pour un lave-vaisselle. Mais tous les appartements du T1 au T3 sont équipés d'une cuisine. Sont dotés d'une cuisine avec des rangements, avec de la vaisselle, ce qui fait partie de la dotation mobilière, finalement, dans un contrat de location meublée.
Voilà. On est proche aussi de l'hôtel, quelque part, parce qu'on pourrait presque avoir une vie de tout service compris. Ça se module en fonction des besoins, des envies, des capacités financières.
Des capacités financières, des besoins à l'instant T. Ce qui est bien, c'est que vu qu'on a des personnes qui vont rentrer à un âge et à une envie, une dépendance certaine ou pas, ou une indépendance, on les suit tout au long de leur vie au sein de notre résidence. Et au départ, on n'a pas besoin du ménage. Et au fur et à mesure du temps, on a des besoins. Donc, ce qui permet de suivre nos résidentes et résidents selon leur évolution et de leur proposer des services qui leur permettent de conserver leur autonomie et conserver leur appartement au sein de notre résidence. Donc, une personne peut rentrer en ayant besoin de strictement rien et au fur et à mesure du temps, souhaite souscrire l'entièreté de nos services. Donc, c'est vraiment une offre qui est, comme on le disait, très flexible.
On s'adapte au fur et à mesure, en fait. C'est que là, il parlait des repas ou des ménages, des personnes qui rentrent, qui sont vraiment très autonomes et attachées à se faire à manger, au fur et à mesure du temps, peuvent commencer par ajouter le repas, admettons, tous les vendredis quand il y a le repas festif, et après rajouter tous les midis, après on peut rajouter les soirs, les petits déjeuners, voilà, c'est vraiment en fonction de chacun.
Un point qui est peut-être important, c'est déjà l'âge, est-ce qu'il y a un âge minimum pour louer chez vous?
Est-ce qu'on ne va pas fâcher des personnes?
Non, en fait, il y a des moyennes.
En moyenne. À partir de quel âge, déjà?
60 ans.
Voilà. Prend la résidence, par exemple, Albi, tiens, un exemple, la moyenne est sur 86 ans.
Ah oui.
Et on va de 60 à 102.
Et justement, vous parliez de moyens financiers tout à l'heure, les loyers, c'est un loyer classique qui ouvre des droits à des aides comme loyer.
C'est ça, tout à fait. On a une redevance, qu'on appelle redevance, qu'on différencie bien du loyer, parce que la redevance qu'on propose inclut différents services. Bon, ça, je pense qu'on y viendra peut-être après, mais ça ouvre des droits aux appels, notamment auprès de la CAF, pour pouvoir bénéficier d'une aide supplémentaire. Et cette aide-là, ce qu'on voit surtout dans nos résidences, permet à des résidentes et résidents de se servir de cette aide-là pour souscrire des services, par exemple.
D'accord.
Voilà.
C'est intéressant. En même temps, vous profitez d'une certaine expertise, l'expertise d'un groupe Stella. Vous n'êtes pas dans ce groupe Stella à votre première résidence, celle de Lourdes. Est-ce que finalement, il est utile et bon d'adapter chacune des résidences en fonction du territoire, ou est-ce que finalement la formule est bonne et elle correspond globalement aux attentes tant des résidents que de leur famille? La formule marche.
Elle marche. On retrouve quand même une ressemblance sur toutes nos résidences. Après, effectivement, on va s'adapter au territoire. Mais dans l'idée, oui, on retrouve un peu la même chose partout.
C'est ça. C'est le modèle de base de la construction. Finalement, on arrive à l'adapter. On a un cahier des charges qui s'adapte en fonction de la volonté et des besoins. Parce que chaque année, on a des besoins et des volontés qui changent. Mais après, l'exploitation en elle-même de la résidence, c'est les équipes sur place qui l'adaptent et qui le font surtout en fonction du territoire, parce qu'on a des territoires où on met des choses en place qui vont fonctionner ici, mais qui ne fonctionneront pas forcément sur d'autres territoires. Donc ça, c'est le côté adaptation du quotidien.
Anne Deloy.
Ludovic, tout à l'heure, vous nous disiez des repas conviviaux, je ne sais plus comment
festif.
Vous dites, festifs, le vendredi, donc ça veut dire que vos équipes, elles ont vraiment le souci qu'il existe des liens et de la convivialité entre tous les résidents. Donc il y a différentes propositions, et comment vous êtes attentif justement à ce que les relations soient suffisamment fluides entre les uns et les autres, parce que c'est peut-être pas toujours évident, hein. On arrive tous avec des tempéraments un peu différents, plus ou moins des caractères agressifs.
Dans les étages.
Alors, à table. Des fois, on essaie de...
Comment ça se passe?
Quand on aide les gens à aller à table, ils ont leurs habitudes, hein, donc les tables changent peu. C'est souvent les mêmes personnes qui mangent ensemble. Quand il y a des nouveaux qui arrivent, on essaie de les orienter suivant le caractère sur certaines tables.
Oui.
Voilà, pour justement avoir un peu plus de fluidité. Mais après, sur les repas festifs, par exemple, ça nous permet d'avoir les gens qui ne mangent pas là le reste de la semaine, de descendre et de voir les autres résidents se croiser, discuter.
Il y a quoi encore comme animation qu'ils peuvent avoir en commun? Alors, de temps en temps des soirées dansantes ou des après-midi particulières? Qu'est-ce que vous faites?
Comme disait Charles, ça dépend vraiment des résidences. Il y a des résidences où il va y avoir des activités qui vont vraiment beaucoup plaire, et sur les résidences voisines ne marcheront pas forcément. Mais on a un petit peu de tout. On peut avoir de la gym avec des professeurs de gym diplômés, spécialisés.
Oui.
On peut avoir des profs de qigong, de sophrologie, théâtre, chorale, des chanteurs qui viennent. C'est très varié.
Il y a une personne qui est en charge finalement de la programmation aussi, des animations. C'est important ce point, c'est les animations dans l'offre.
En fait, le centre, le nerf finalement de la résidence et le quotidien de la résidence, c'est ce lien social, c'est ces animations, c'est ce quotidien. On a un fil conducteur qu'on essaye de dupliquer sur nos résidences. Par contre, c'est d'avoir un minimum 2 animations par jour, de sorte à, pour toute la journée, avoir de la vie au sein de la résidence. Alors, il y a des personnes qui ne vont pas forcément accrocher avec l'animation du matin, mais qu'on retrouvera l'après-midi. Donc c'est pour ça qu'on essaye de varier aussi en ce sens-là. Donc gym douce, yoga, comme la cité Ludovic, des activités plus créatives, plus intellectuelles, des sorties aussi à l'extérieur, parce qu'on essaye aussi autant que possible de les amener à l'extérieur de la résidence. Donc il y a des personnes qui sont bien sûr formées pour l'accompagnement à l'extérieur. On a sur des résidences des résidents qui partent en voyage au sein de d'autres résidences Stella aussi.
Il y a le car qui fait le tour des résidences.
Ouais, on part
tous pour le Mont-Saint-Michel. Non, mais c'est ça.
Non, mais c'est cette. Enfin, moi, je trouve ça très important le côté animation, parce que c'est ce qu'ils viennent chercher aussi. C'est un quotidien amélioré. Et si on propose rien de plus que ce qu'ils ont aujourd'hui, autant ne pas venir en résidence service senior.
C'est vrai qu'on a parlé d'autonomie, on voit bien les appartements, la manière dont ils sont disposés, etc. Mais la sociabilisation, elle fait pleinement partie aussi.
Elle a tout son sens.
Du projet de vie, c'est ça?
C'est ça.
C'est aussi peut-être quelque part un déracinement, parfois... se sent un peu arraché de son foyer quand on arrive dans une résidence comme ça, le combler par des activités sur le papier, ça semble attirant. Dans les faits, quel est votre regard là-dessus?
À nous d'être attentifs à chaque personne. Quand les résidents arrivent, déjà il y a un suivi, un accueil et un suivi de leur arrivée. les équipes vont aller les chercher pour leur proposer de plutôt manger au restaurant en bas plutôt qu'en étage. Mmh. Vont aller les chercher pour les animations. Si la réponse est toujours non, ça ne me plaît pas, bien, discuter un petit peu, trouver une animation qui pourrait leur plaire. Des résidents peut-être qui aiment la même chose et essayer de les faire descendre avec un petit groupe pour commencer, puis après, prendre des habitudes. Mais c'est pas évident, mais il faut être attentif. En fait.
Au niveau de la partie médicale, c'est pas une résidence médicalisée, non. Mais oui. Chacun a par exemple son kiné, son infirmière qui vient, ouais. Son médecin.
C'est ça. C'est comme finalement à domicile où des praticiens libéraux d'accord. interviennent au sein de la résidence, donc ça peut être médecin, kiné, infirmier ou tout autre praticien. Et en fait, nous, notre rôle aussi, ça, ce qui est important de le dire, c'est qu'on puisse coordonner aussi ces équipes-là. Par exemple, un résident ou une résidente qui a un besoin, on arrive à avoir des partenariats avec des cabinets infirmiers libéraux pour leur demander si un passage est possible. Donc ce côté médical-là qu'on n'a pas directement, on l'a de manière indirecte parce qu'on suit, on coordonne ces services-là et ce passage-là pour que les personnes puissent avoir des praticiens qui viennent à domicile et assurer un suivi médical aussi, parce que c'est aussi important, on le sait.
Mais aussi un service, il me semble, si je me souviens bien, au niveau des médicaments.
Oui, tout à fait. En fait, nous, c'est cet aspect-là aussi où on reçoit, on récupère les ordonnances, on envoie à la pharmacie avec qui on travaille et on a une livraison quotidienne. Tous les jours, on a la livraison, donc ils n'ont pas à aller chercher les médicaments. Ça va d'une simple livraison de médicaments, parapharmacie, dispositif médical. C'est vraiment une offre complète. Et en fait, ils ont juste à venir nous voir à l'accueil et on s'occupe de tout.
Et s'il y a des résidents qui ont besoin d'avoir quelqu'un qui les aide à préparer tout leur je ne sais plus comment on appelle ça,
le pilulier.
Tous les jours, le pilulier.
Ça, c'est le cabinet infirmier.
Ça se fait aussi. C'est des infirmières. Qui viennent.
C'est ça.
Vous qui êtes professionnel du grand âge, arrive très souvent le moment de la décision. Il faut quitter la maison, quel choix prendre. C'est souvent des moments douloureux quand ils ne sont pas trop anticipés. Ouais. Quel conseil vous donne peut-être chacun de vous, peut-être une réponse différente, mais Ludovic Penn, puisqu'il est encore une fois Charles Langlois,
je passe le temps de réfléchir à sa réponse.
Mais quel conseil vous pourrez donner à une famille quand le grand âge arrive?
De pas trop attendre. En fait, c'est ce qu'on dit souvent aux familles.
Il voulait dire ça. Mais voilà. Donc tous les deux, c'est le conseil.
Pourquoi pas attendre. Parce que généralement, quand on vient nous voir, c'est pour garder son autonomie et pas aller de suite à un EHPAD, justement. Mais les résidents n'osent pas toujours franchir le pas, attendre. Et au moment où ils aimeraient nous rejoindre, c'est peut-être un peu tard. Et c'est plutôt l'EHPAD qu'il faut choisir.
Donc pas trop attendre. Le choix de l'EHPAD, c'est la maladie qui dicte la vieillesse, la perte d'autonomie totale. Aidez-nous à guider là-dessus. À quel moment on peut faire le choix d'une résidence autonome, encadrée, et le choix de l'EHPAD? C'est pas simple.
Quelqu'un qui arrive et qui est encore, on va dire, autonome. Peut venir chez nous, va vieillir chez nous, son état de santé peut se dégrader, mais on peut mettre les choses en place pour que la personne reste avec nous. Si la personne arrive déjà avec quelques problèmes, c'est plus compliqué. Mmh. Voilà. Il y a des pertes de repères.
Charles Langlois.
Le conseil aux familles est grandement similaire avec celui de Ludovic. Faut pas attendre. Après, attention, on ne force la main à personne. On est... Et j'en avais discuté lors de la visite de Delphine à la résidence.
On voit bien que Delphine a un peu d'avance sur nous avec cet article dans la Dépêche qui a précédé cette émission.
C'est qu'on est une solution. Voilà ce qu'il faut dire. On est une solution et je suis intimement convaincu qu'on est une marche intermédiaire entre domicile et établissement médicalisé. Parce que les personnes, comme l'a très bien dit Ludovic, peuvent rentrer dans des états cognitifs différents, physiques différents. Mais on a une solution pour éviter de trop rapidement aller en établissement médicalisé. Ouais. Parce qu'on se fait une image d'établissement médicalisé qui est, on le voit sur le secteur, sur le territoire, qui est plus ou moins négatif parce qu'on pense que ça y est, c'est la fin, on va en établissement médicalisé. Et nous, on offre finalement cette solution de avant d'aller en EHPAD, venez dans notre résidence, retrouver un lien social, retrouver une animation, et même parfois on a même le chemin inverse où des personnes, on l'a vu encore avec une dame aujourd'hui, qui est en établissement médicalisé et va intégrer notre résidence. Parce que trop rapidement, parti en établissement médicalisé, et qu'aujourd'hui on a une solution sur le territoire pour que pour ces personnes-là puissent intégrer la résidence. Donc le conseil qu'on donne aux familles est simple, c'est qu'on leur propose une solution, venez voir ce qu'on propose avant de prendre décision hâtive. Après, on se met en relation, bien sûr, avec le corps médical, etc., pour savoir si c'est apte ou
pas. Anne Deloye.
Oui, moi, je trouve que c'est une très bonne solution. Enfin, cette initiative de style de maison, enfin, de résidence, comme celle de Stella, les Roses de Massabielle à Lourdes, c'est qu'on entend souvent des personnes qui ont, on va dire, qui vieillissent, même qui a une soixantaine d'années, mais qui sentent que plus en prenant de l'âge, elles vont être seules, parce que c'est des fois des personnes, ça peut être même des mères ou des pères de famille, mais qui n'ont pas forcément d'enfants à proximité, ou d'enfants qui sont encore bien en lien avec eux. C'est des fois des personnes seules, célibataires, qui ne veulent pas peser non plus sur le reste de la famille, les neveux, etc. Oui. Et du coup, qui seraient ouverts tout à fait à ce style de lieu, pour garder, en fait, comme vous dites, leur autonomie, mais aussi le lien social et
anticiper.
Je trouve que c'est une très très bonne solution.
Aussi, anticiper aussi l'avenir. Vous avez évoqué le sujet des proches aidants, auquel j'éprouve énormément de respect pour les personnes qui accompagnent leurs proches au quotidien, parce qu'on sait qu'on peut être plus ou moins sollicité, j'ai besoin de ça, etc. Ben, on parlait des médicaments, mais c'est les proches qui vont chercher les médicaments, etc.
Oui, oui. C'est vrai, ça.
Nous, on est une solution aussi de répit pour les proches aidants. Ça, il faut le dire.
Tout à fait.
Leurs proches sont dans un établissement qui est sécurisé, on va proposer du lien social, des services au quotidien qui vont permettre d'alléger aussi le quotidien de ses proches aidants et de pouvoir penser à soi. Ça aussi, c'est important, et notre solution à la résidence Stella à Lourdes fait de sens.
Et moi, je pense que pour les proches, c'est tranquillisant que de savoir ses aînés bien entourés, qui continuent à vivre, etc. Je crois que c'est vraiment un beau service que vous rendez à la société d'aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Ouais.
C'est un service qui, de fait, peut-être on peut parler un peu d'argent, parce que c'est toujours une question, évidemment, que l'on se pose quand on est avec les enfants, comment se réunissent, comment va-t-on parvenir à financer tout ça. Il y a toujours une charge de maison qui reste, et puis ensuite une location. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est accessible pour tous? Est-ce que, malheureusement, ce n'est réservé qu'à des personnes qui peuvent se l'offrir? Est-ce que les aides de l'État peuvent aider? Voilà, donc Ludovic Ten passe à Charles Langlois. On suit le match.
Merci Ludovic pour la passe. Je pense qu'on se fait généralement sa propre idée quand on parle de résidence service senior ou quand on entend parler. Il suffit qu'une personne dise une fois c'est très très cher pour qu'on reste sur cette idée-là. Bien sûr qu'on a des tarifs qui sont accessibles. Ce qui donne du sens à tout cela, c'est que vu qu'on a plusieurs typologies de logements, finalement, on peut répondre à plusieurs possibilités financières. On a des aides, on parlait de la CAF, on parlait des APL, les mutuelles, les caisses de retraite aussi peuvent aider en ce sens-là. Donc on a un tarif de base qui est moitié moins cher qu'un établissement médicalisé. Et pour autant, un appartement avec un vrai lieu de vie et des animations au quotidien.
Parce que vous êtes en fait éligible à toutes les aides, ça permet finalement de réduire la note,
c'est réduire, surtout en fonction des possibilités de chacune et chacun. On essaye au maximum de trouver des solutions et des synergies avec justement des sociétés, avec des aides, pour que les personnes puissent intégrer notre résidence, mais sans avoir le couteau sous la gorge. Ça, c'est ce qu'on ne veut pas. Au contraire, on veut que la personne puisse être bien dans la résidence et ne pas se rajouter un stress lié à la partie financière. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que c'est le sujet quand on fait des visites, combien ça coûte.
Évidemment.
C'est même parfois la première question. Les personnes, même avant de nous dire bonjour, ça coûte combien? Écoutez déjà bonjour. et après, on en discute, mais généralement, la surprise est plutôt bonne.
Oui, parce que là, on n'est pas sur un temps court, on part vraiment sur un temps long. Donc, c'est ça, c'est comment aussi appréhender les années. Comment se passe le dialogue avec les familles? J'y peux imaginer qu'on met beaucoup d'espoir dans une rencontre avec vous, en se disant voilà peut-être une solution qui pourra convenir à mon père, à ma mère, à mon oncle, à ma tante, de se dire là il y aura l'autonomie. Il y a beaucoup d'espoir quand on vous rencontre. Comment ça se passe? Tout est différent, mais peut-être
oui, il y a tout plein de cas différents. Les démarches sont souvent quand même initiées par les familles. Oui, effectivement, il peut y avoir un peu d'espoir de la part de certains. Les familles qui sont éloignées, qui voient leurs parents isolés à la campagne, qui s'inquiètent de les savoir seuls, ben, pour eux, c'est assez rassurant de les savoir au sein de la résidence, avec des activités, une surveillance 24 heures sur 24. Donc oui, il y a un peu d'espoir de leur part, mais c'est surtout l'espoir que les parents acceptent de venir.
C'est ça.
C'est souvent ça, en fait, parce qu'ils ont confiance en nous, ils nous connaissent, ils comprennent notre démarche. Souvent, ils attendent de nous d'avoir les bons arguments, les bonnes explications pour que les parents nous rejoignent.
C'est ça.
Et puis après, il y a certainement ce second rendez-vous où quand la personne vient... Et là, bah, c'est tapis rouge, il faut qu'elle se sente bien.
Oui,
là, pas facile, donner, ça aussi, peut-être, ces moments-là.
On essaie de dégrossir dès le premier rendez-vous avec les proches, parce que c'est généralement comme ça que ça se passe, comme l'a très bien dit Ludovic. C'est une première approche par le fils, la fille, ou toute personne qui s'occupe de la personne concernée. Et le deuxième rendez-vous, déjà, le gros travail de la part des proches d'avoir convaincu la personne concernée de venir visiter, ça aussi, il faut le dire, parce que c'est un gros travail aussi de fait, mais ça, c'est un travail qui n'est pas fait par nos services, mais par les personnes, les proches. Et puis après, voilà, c'est leur montrer qu'il y a une vraie, pas nécessité, mais qu'il y a un plus, finalement, à leur quotidien actuel, à intégrer la résidence. Donc, après, on appuie sur les cordes sensibles, le côté sécurité quand une personne a besoin de se sentir en sécurité, le côté lien social quand on va parler des animations, donc on sait sur quel service on va appuyer pour que la personne arrive à passer le gap et puisse intégrer la résidence derrière.
Vous devez être bien accueilli aussi par les acteurs de la ville, dans les municipalités où vous êtes, parce que vous participez quand même au bien commun. Quelles sont vos relations avec les élus, les institutions, y a un maillage, un réseau qui se fait? Comment vous vivez
Ici à Lourdes, ça commence, mais dans notre résidence, oui, le maillage est beaucoup plus important. Là, on commence à faire connaissance avec les élus. Alors, Charles, elle les connaît un peu mieux que moi, mais on échange. Là, j'ai échangé avec des infirmières à ces jours-ci, voilà, qui ont déjà des idées de patients à elles.
De passer qui, en elles en...
À elles, des patients dont elles s'occupent.
Ah,
et,
oui.
Qui nous disent, mais on pense que votre résidence est le bon endroit pour eux. Donc, elles doivent revenir nous voir. Donc, voilà, on fait connaissance.
Ça, c'est la grosse volonté aussi, je parle du groupe Stella, hein, de manière générale, c'est d'arrêter de se dire qu'on est dans des cases, on ouvre les portes. Tant bien pour la partie senior, en ouvrant le restaurant, en ouvrant à des personnes qui ne sont pas locataires, mais qui souhaitent venir déjeuner, dîner au sein de notre résidence, ou même passer la journée entière, il y a cette possibilité-là, mais aussi aux acteurs, et avoir un ancrage territorial fort, c'est notre volonté. Donc on a eu la chance d'être bien accueillis par la municipalité de Lourdes, que je remercie encore aujourd'hui, parce qu'on a des élus qui sont disponibles, sont venus à notre rencontre et avec qui on a pu travailler dans le bon sens. On a eu l'occasion de rencontrer le CCS de Lourdes, qui est venu aussi au sein de la résidence. On a eu l'occasion de rencontrer des élus ou toute autre personne. On a rencontré des cadres de santé de la Bastide encore pas plus tard qu'hier. Donc le projet est, je trouve ça vraiment bien pour nous, est très très bien accueilli ici par les acteurs et actrices du territoire, et je remercie encore toutes ces personnes-là.
Est-ce que aujourd'hui, peut-être une dernière question, peut-être pas la dernière, mais quand même un effort d'image à faire. On a vu dans les années passées que, évidemment, les établissements de santé, il y a eu des situations dramatiques qui se sont vécues. Est-ce que ça vous impacte? Est-ce qu'aujourd'hui, vous souffrez quelque part d'une image négative et il y a besoin d'aller regagner une confiance? Est-ce que c'est derrière vous? Est-ce que c'est encore là? Comment vous le vivez?
Alors, regagner la confiance, non, parce que généralement, les gens font la différence entre les résidences seniors et d'autres organismes.
Oui.
Donc, ils sont au courant qu'on a un fonctionnement différent. Donc, on n'a pas vraiment besoin de regagner leur confiance. C'est très, très rare qu'il y ait l'amalgame. Ça peut arriver, mais c'est plutôt rare. Enfin, pour ma part.
L'amalgame est là, malgré nous. Il y a eu des scandales qui bien sûr, ne nous ont pas fait forcément du bien, entre guillemets, parce que il y a cette résistance-là, après, à intégrer un établissement. Après, c'est là tout notre travail de montrer quelle est la différence entre un établissement médicalisé et ce qu'on propose aujourd'hui. L'amalgame a été fait pendant un moment. Maintenant, on y est de moins en moins, on le retrouve de moins en moins. Mais ça, c'est tout notre travail au quotidien de leur montrer qu'il y a une vraie différence. Et aujourd'hui, on le voit de moins en moins.
Aujourd'hui, il y a combien de résidents dans la résidence de Lourdes ? Vous savez à peu près ? Vous avez fait les comptes ?
Alors, on a fait les comptes. On regarde. on a aujourd'hui une vingtaine de résidentes et résidents. Mais on a commencé la commercialisation au mois d'avril, donc des personnes qui s'étaient renseignées et avaient accepté à intégrer la résidence, qui maintenant ne peuvent plus intégrer la résidence, malheureusement. Mais
Il y a de la place.
Il y a de la place.
Comment fait-on pour vous joindre ? Comment fait-on pour venir à votre rencontre ?
Bah écoutez, venez nous rencontrer tout simplement à la résidence, 24 avenue de la Gare. On peut pas se tromper.
24 avenue de la Gare. Oui, ça c'est vrai qu'on peut pas se tromper. Vous pouvez même venir en train parce que vous descendez.
En face de la Gare. Nom, les roses de Massaviel.
Les roses de Massaviel. Ça c'est un nom qui est évidemment pas choisi au hasard parce que là. C'est à quelques centaines de mètres à la fois du sanctuaire et aussi de notre studio. Merci beaucoup d'être venu nous partager, nous montrer le dynamisme en tout cas de cette équipe. Merci d'être peut-être venu nous montrer que le vieillissement, plus libre, plus humain, plus positif, c'est possible. La résidence Les Roses de Massabielle, résidence senior Stella, voilà une alternative entre domicile isolé et la maison de retraite médicalisée. C'est l'autonomie, le lien social, la qualité de vie, je crois, qui est au cœur du projet, comme vous avez su nous l'expliquer. C'est toujours bon, Anne Deloy, de savoir ce qui existe, parce que quand il faut prendre une décision, on est un petit peu dépourvu.
Tout à fait. Et puis je crois que justement, à Lourdes, on rencontre souvent des personnes qui viennent pour un court séjour. Ça peut être parmi les pèlerins ou des gens de passage, mais qui sont touchés par Lourdes et qui disent souvent « mais à la retraite ou quand je serai plus vieux, je viendrai m'installer à Lourdes oui. ». Et c'est vrai, moi je veux dire, je pense particulièrement à deux amis qui sont de Belgique, là. Une amie qui est malade et sa maman qui vieillit. Elle me dit souvent, quand je les ai au téléphone, mais je voudrais venir à Lourdes. Et tout ça. Et bien, vous voyez, ce style de résidence, je crois que ça peut aussi correspondre à une attente. Et vraiment, bravo. Moi, je suis très touchée par cet échange.
Et on n'a pas parlé du rooftop, je suis déçue.
On n'a pas parlé du rooftop. C'est une heure d'avance d'être avec son petit de la dépêche. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de rooftop ? On reste et on finit là-dessus, parce que le temps est passé.
Une belle terrasse.
Une terrasse qui se situe au cinquième étage, mais normalement c'est la surprise, la surprise du chef quand on fait les visites. Mais bon, au moins,
on veut la surprise.
On viendra à la résidence uniquement pour le rooftop. On montrera le rooftop.
Bon, alors parfait. La prochaine, pour le feu d'artifice. Voilà, la prochaine émission se fera sur le rooftop de la résidence Les Roses de Massabielle à Lourdes. Merci beaucoup.
Merci
vous reviendrez
merci,
nous
merci
donner
vous.
Des nouvelles, vraiment
merci.
Vous. À très bientôt et nous on se retrouve une prochaine fois.
Oui, avec plaisir.
Allez, à bientôt. Merci à tous.
Merci.
L'heure de pointe, David Torchala.